sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Il y a quelques années, j'avais été à la présentation presse d'une nouvelle marque, Beauregard, qui lançait une collection de carreaux de ciment. C'était très beau, très quali, très graphique, très nouveau. Mais je me souviens qu'en apercevant la créatrice, Aurélia Paoli, qui avait à peu près mon âge, je m'étais demandé ce qui avait bien pu la piquer pour se lancer dans le revêtement de sol. Aujourd'hui, j'ai compris, Aurélia est une experte en matériaux décoratifs. Elle jongle entre technique et esthétique, création et édition, que ce soit pour les sols ou pour les murs. Son style contemporain, allié à un savoir-faire unique, des motifs forts et originaux, souvent inspirés des arts déco et soutenus par des coloris puissants et très actuels, font largement l'unanimité. Mais je vais quand même lui poser la question. Bonjour Aurélia.
Bonjour Hortense.
Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que je vais vous poser ma petite question, parce que je crois que vous avez fait des études de mode, alors qu'aujourd'hui, vous travaillez plutôt dans la déco. Quelle a été la passerelle? À quel moment vous vous êtes dit que vous alliez créer des carreaux de ciment au tout début?
Alors, la passerelle, ça a été le design textile, la création de motifs qu'on appelle design textile, qui est en fait un design peut être appliqué sur n'importe quelle surface. Donc, on va dire que je me suis ensuite spécialisée dans le design textile et surface, voilà.
Et donc au carreau de ciment,
dans un premier temps, évidemment au carreau de ciment, puisque le procédé de fabrication est simple et accessible.
Alors, c'est-à-dire, c'est quoi un carreau de ciment déjà?
Alors un carreau de ciment, c'est quelque chose de tout à fait artisanal. C'est un diviseur en fait qui est créé à partir d'un dessin. Un diviseur, pourquoi on appelle un diviseur? Puisque il faut s'imaginer en fait le dessin en 3D, en relief, avec un moule de laiton ou de cuivre. Et puis après, on vient remplir dans les interstices du diviseur. On vient remplir à la canette du ciment teinté. Et ce qui est fabuleux, c'est que donc de l'état liquide, ça passe sous presse, une presse hydraulique, donc manuelle, enfin semi-manuelle, c'est-à-dire qu'elles sont, voilà, c'est quand même des presses, on va dire semi-industrielles, mais je veux dire, c'est toujours l'artisan qui fabrique, et donc de l'état liquide, on arrive à un état solide.
Mais le ciment est teinté, c'est pas un ciment gris standard sur lequel vous venez poser un décor?
Non, c'est vraiment c'est teinté dans la masse. Et donc sur le carreau, il y a deux couches. Il y a une couche décorée qui est celle du motif avec le ciment teinté dans la masse. Il y a trois matériaux qui sont mélangés. Il y a du ciment blanc, des pigments naturels et de la poudre de marbre. Voilà, ça c'est la partie décor. Et ensuite, il y a la semelle où là, c'est du sable et du ciment.
Et alors, une fois que vous l'avez mis dans le moule, ça cuit pas un carreau de ciment?
Non.
C'est ça? Ça sèche?
Ça sèche à l'air libre.
Pendant combien de temps?
Ça sèche, alors selon les procédés de fabrication et les ateliers, selon leurs équipements, c'est entre une semaine et trois semaines.
Donc vous dites que vous collaborez avec des artisans, ce sont des petits ateliers, c'est un travail qui est manuel, c'est pas du tout industrialisé?
Non, on peut pas dire que ce soit industrialisé de la façon dont on l'entend aujourd'hui. Alors après, c'est pas de l'artisanat, on va dire d'art, dans le sens où c'est pas un tout petit atelier. Voilà, c'est quand même des sorties. Enfin, je veux dire, ils produisent énormément de carreaux par jour. On est entre l'artisanat. Enfin, quand je dis l'artisanat, ça reste de l'artisanat.
Mais je parle parce que c'est un travail manuel.
Parce que c'est un travail manuel. Parce que c'est un savoir-faire. D'ailleurs, un savoir-faire français. Hein.
Donc, ils sont fabriqués en France, vos carreaux?
Non, malheureusement, non.
Ah, c'est un savoir-faire français qui n'est pas fabriqué en France?
Exactement. C'est comme pas mal de savoir-faire qu'on a perdu, malheureusement. C'est un savoir-faire français, voilà, qui a été dévoilé à l'Expo universelle pour la première fois parisienne au début du siècle, enfin 1900, dans les années 1900. Puis, en fait, dans les années 50, les derniers ateliers qui fabriquaient en France ont été délocalisés. Donc, aujourd'hui, les principaux producteurs de carreaux de ciment sont le Maroc et le Vietnam. Voilà, ancien protectorat français. Et le savoir-faire est un peu parti.
Alors vous, je crois que vous fabriquez à la commande, vous n'avez pas de stock?
J'ai très peu de stock, parce que ça fait partie intégrante de mon business model, de ne pas avoir de stock. En fait, quand j'ai fondé Beauregard, j'ai écrit un manifeste et de temps en temps, je le relis, quoi, comme une promesse que je me suis faite pour ne pas créer une offre qui n'a pas de demande. Enfin voilà, en fait, pour juste répondre à la demande.
Oui, pour éviter de gâcher.
De trop produire. Peut-être ça me vient aussi de mon parcours dans la mode et dans le sur-mesure, puisque la haute couture, voilà, c'est du sur-mesure. Et c'est ça, c'est de répondre à une demande le plus précisément possible et le mieux possible, voilà, pour atteindre l'excellence.
Alors, le carreau de ciment est redevenu très tendance il y a quelques années. Est-ce que vous avez une explication à ça ?
Alors, je crois que la première vague du renouveau du carreau de ciment, j'étais trop jeune pour l'appréhender. Enfin, pour, voilà. Alors, moi, je l'interprète vraiment sur la possibilité du sur-mesure en petite quantité.
C'est pour ça que ça plaît ?
Alors, d'abord, il y a une tradition, on va dire, culturelle aussi. Hein, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on a tous eu des beaux carreaux dans les maisons. Enfin, tous eu ou vu. Et ça fait partie du patrimoine, en fait. Donc, d'un patrimoine culturel, conscient ou inconscient. Donc, les gens se reconnaissent dans le carreau de ciment. Comme quand on écoute une musique et on va la rattacher à un souvenir. Je pense que quand même, chez tout le monde, il y a un carreau de ciment à un moment donné dans sa vie. C'est quelque chose de familier. Et comme tout ce qui est familier et attachant, je pense qu'aussi, il y a aussi cet attachement à ce matériau qui fait que les gens, quand après, ils ont un projet de rénovation ou premier achat de maison, voilà, on a envie d'avoir des beaux matériaux. Et déjà d'avoir des matériaux qui nous ressemblent pour raconter sa propre histoire dans son chez-soi. Et le carreau de ciment est vraiment le matériau idoine pour répondre à ça. Il n'y a pas beaucoup de matériaux qui peuvent répondre à ça en termes de prix, en termes de délai, en termes de possibilités de motifs, en termes de colorisation.
Et c'est un matériau qui est très pérenne surtout.
Il est très pérenne bien sûr, il est très résistant. Alors il est fragile avant la pose puisqu'il n'est pas cuit. Bon, après, même une céramique est fragile si on fait tomber un carton, mais malgré tout, il faut le manipuler avec soin, parce que parfois, comme il est lourd, il n'est pas cuit, donc il est épais. On a l'impression que c'est très résistant, mais non, c'est pas parce qu'il est épais qu'il est très résistant. Il est très résistant après la pose. Voilà, une fois posé, une fois scellé, il est parfaitement résistant. Et comme il est teinté dans la masse, c'est pas, vous faites tomber quelque chose, il n'y a pas d'éclat, par exemple. Voilà, donc après, il peut aussi se rénover comme un parquet, avec des monobrosses. Enfin, il y a plein de techniques qui sont là pour rénover le sol, comme les terres cuites, comme un marbre.
Et comment on les utilise, les carreaux de ciment ? On les met plutôt dans quelles pièces ?
Alors, historiquement, on les trouve souvent dans les entrées, parce que c'était les plus... il fallait l'effet waouh quand on recevait quelqu'un chez soi. Donc souvent, c'était dans les entrées. Et puis après, c'est passé à la salle de bain, dans les cuisines, les salons, les chambres. Voilà, après, franchement, on peut en mettre partout.
Partout, ouais. Pourquoi c'est si cher parfois ? C'est quand même un des inconvénients. Tout à l'heure, vous disiez que c'était pas très cher. Moi, je dirais pas ça.
Oui, tout à fait, c'est un investissement. Mais justement, c'est pour ça que c'est bien. Parce que quand on investit, on réfléchit. Voilà, c'est pas sur un coup de tête qu'on va acheter du carreau de ciment. Et du coup, ça permet justement de choisir un beau décor. Alors, effectivement, je vous rejoins sur le fait que c'est pas tout à fait non plus abordable. On n'est pas sur du 20 euros le mètre carré. Voilà, même chez Leroy Merlin, le carreau de ciment coûte cher parce qu'il est fait pièce par pièce à la main. C'est un travail.
Même dans des grandes sociétés comme Leroy Merlin, par exemple, le carreau de ciment, il est fabriqué artisanalement.
Et bien sûr, parce que soit on est sur de la copie. On ne peut pas parler de copie de carreau de ciment, mais on va dire qu'on est sur de la copie du motif associé au carreau de ciment, donc qu'on retrouve aussi dans les grandes surfaces. Il y a beaucoup, bien sûr.
Le carrelage, esprit carreau de ciment.
Esprit carreau de ciment, tout à fait. Mais d'ailleurs, on en trouve à des prix très très bon marché, où l'impression s'efface. Moi, j'ai vu des carreaux en céramique, impression en grès céram, qui s'effaçaient. Au bout de 3 ans...
Et pourquoi ça s'effacerait sur du carrelage et pas sur du ciment ?
Eh bien parce que on a l'habitude de nettoyer les grès céram avec des produits très agressifs, puisqu'ils résistent aux produits. Mais l'impression numérique, quelle qu'elle soit, voilà, elle a aussi ses limites. Je veux dire, il y a dans les process de fabrication, il faut passer sur de l'émaillage. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte pour que le matériau soit pérenne. Et évidemment, sur des produits trop bas de gamme, on n'a pas cette pérennité non plus. Donc on va se dire, ah super, en fait, je vais avoir l'effet carreau-ciment pour 10 euros le mètre carré. Enfin, je ne dis pas que tous les matériaux à 10 euros le mètre carré ne sont pas... Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ça aussi sur des réalisations. Hein. Donc du coup, c'est vrai que... Faut peser le pour et le contre sur quand on achète un matériau, le prix, la pérennité. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Mais le carreau de ciment, il se situe sur un marché milieu de gamme. C'est-à-dire que dans le carrelage, il y a du 600 euros le mètre carré, il y a du 300, il y a du 200, il y a du 100. Et enfin, en fait, en gros, on est sur à partir de 10 à 600, voilà. Et donc le carreau de ciment se situe vraiment dans une moyenne accessible, on va dire. Pour ça que je l'entends comme accessible.
Et l'entretien, il est un petit peu plus compliqué qu'un carrelage quand même.
Alors qu'un grès émaillé, oui, tout à fait. Il est plus compliqué parce que c'est un matériau qui est poreux à la base. Donc une fois posé, il faut l'hydrofuger. Donc il y a un traitement à faire sur le carreau, comme un parquet. Vous allez mettre un parquet, vous allez le vitrifier, fondure, vitrification, etc. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un matériau, d'accord, qui est décoré, mais qui est brut. Donc, vous le recevez brut, il faut l'hydrofuger. Et ça, c'est une étape absolument primordiale et totalement nécessaire et hyper tellement importante. C'est-à-dire que c'est vraiment la pérennité aussi du carreau, la beauté du carreau aussi est très liée à cette étape. C'est les entrepreneurs qui sont en charge du chantier, voilà, qui en ont la responsabilité.
Parce que nous, on ne peut pas poser des carreaux de ciment. Si j'achète demain des carreaux de ciment, je peux les poser.
Si vous êtes bricoleur, si, bien sûr. En tout cas, quand je dis c'est l'entrepreneur, voilà, c'est la personne qui va réaliser les travaux. Et c'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est plutôt agréable. Hein. Moi, chez moi, je l'ai fait avec ma fille. On s'y est mises toutes les deux et on a passé une super après-midi.
Alors, vous vous appuyez sur un savoir-faire traditionnel, mais ça ne vous empêche pas de créer des motifs qui sont très contemporains. Alors, comment vous travaillez pour créer ces motifs? Quel est le point de départ de vos collections?
En fait, j'aime bien me raconter des histoires et avoir des phrases. Donc, pour Beauregard, pour expliquer ce que je faisais, donc c'était deux sols en mur. C'était ma première baseline, deux sols en mur, pour que les gens comprennent. Et puis après, voilà, pour mon process créatif, j'ai posé, voilà, comme une autre phrase qui est « De nos racines à nos futurs ». Parce que je suis de nature nostalgique et en même temps, je suis hyper intéressée par la science-fiction. Enfin, j'ai deux côtés comme ça. Je peux vivre autant dans le passé et autant me projeter dans un futur très lointain. Du coup, comment je le rattache au présent, c'est justement grâce à Beauregard, c'est-à-dire que j'imagine... En fait, je me dis, je vais imaginer les nouveaux classiques. Donc ça, c'est mon point de départ, en fait. J'essaie d'imaginer les nouveaux classiques. Bon, un classique, c'est quoi? Un classique, il répond à, je pense, des charges émotionnelles qu'on a tous, c'est-à-dire que quand on voit quelque chose, il fait écho chez nous. Voilà. Là, on a déjà une bonne base. Et après, il faut le projeter dans notre univers contemporain, dans notre style de vie, dans nos attentes aujourd'hui. Donc voilà, moi, mon process, c'est les questions en tout cas que je me pose à chaque fois que je crée un dessin.
Et à quoi il faut penser aussi quand on crée un motif? Est-ce que vous avez des obligations?
Moi, je dirais que c'est l'harmonie. Enfin, il faut qu'un dessin, il soit harmonieux. Alors, quand je dis harmonieux, c'est qu'il soit... qu'il ne soit pas insipide, qu'il soit différent. Même si un hexagone, on n'invente pas un hexagone. Personne n'invente un hexagone. En revanche, c'est l'interprétation qu'on va faire de l'hexagone qui va être nouvelle. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est comment on arrive à créer du neuf, une originalité, à partir de quelque chose qui a toujours existé et qui est là, en fait. Donc, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit innovant dans le sens où l'œil, ok, le reconnaît, mais pour autant ne l'a jamais vu. Voilà, c'est un peu une alchimie. Et après, je pense que voilà, c'est la culture métier qui fait que quoi, de se nourrir. Maintenant, ça fait plus bon, un peu. Ouais, ça fait 20 ans que je suis sortie de l'école et que je suis plus étudiante et que je fais 20 ans que je me cultive. Sur toutes les iconographies attachées au savoir-faire, les motifs, les décors.
Alors, avec un même motif, vous spécifiquement sur les carreaux de ciment, selon l'assemblage des carreaux, on peut créer plusieurs décors grâce au calpinage. Alors, qu'est-ce que le calpinage?
La façon dont on va poser les carreaux, c'est-à-dire particulièrement, enfin non pas particulièrement, puisque moi c'est pour ça que ma première collection a été labellisée par l'Observeur du Design en 2015. Donc l'Observeur du Design, c'est un label qui est décerné par la PCI, l'Agence de la Promotion de la Création Industrielle. Elle a été labellisée comme une innovation graphique, comme une nouvelle école, enfin, dans le sens où j'ai utilisé cette technique de calepinage, donc qui est la possibilité de faire tourner le carreau sur ses côtés. Donc si c'est un hexagone, il va tourner sur tous les côtés. Si c'est un carré, il va tourner sur ses quatre côtés. Voilà. Donc vous mettez un premier carreau, et après les autres, vous les faites tourner autour. Ça va vous créer un calepinage. Et en créant un calepinage, vous allez avoir des motifs différents, puisque le raccord qui va se déployer va être après, c'est des termes de designer textile, de répétition du motif. Donc, il y a des raccords droits, des raccords en diagonale. Enfin, voilà.
En gros, moi, si je veux rendre accessible à cette info-là, c'est de se dire que selon le carreau, selon la disposition, il peut créer différents décors. On peut l'associer à l'autre, un carreau voisin, et créer un décor. On peut créer un deuxième décor selon... si on le met d'une deuxième façon, si on peut le mettre aussi d'une troisième façon et créer un troisième décor, c'est bien ça ?
Exactement. C'est pour ça que donc, ce label qui a été décerné à ma première collection, puisque j'ai utilisé chaque motif a entre 4 et 8 possibilités de calepinage, parce que voilà, on peut les assembler de façon différente. Ces façons d'assembler le motif vont créer des nouveaux motifs, puisque la répétition de ce motif va créer des rythmes différents, voire des échelles différentes. Donc avec 9 motifs, les possibilités de calepinage et les 72 couleurs, on a plus de 3000 possibilités de création de motifs. Alors après, il y a des calepinages qui sont juste comme une moquette. On ne va pas l'assembler différemment. En revanche, on va calepiner pour maîtriser les pertes. Dans le carrelage blanc, on va calepiner pour maîtriser les pertes aussi. Dans le carreau de ciment, on peut calepiner pour créer un décor. C'est aussi la force du carreau de ciment.
Alors vous, votre fil rouge, c'est le style art déco. D'où vous vient cet intérêt, en fait, pour les art déco ?
Parce que vraiment, graphiquement, cette époque, je la trouve parfaite, en fait. C'est un sans faute. Tout est beau. Voilà, la quintessence du luxe et du bon goût, dans le sens où le motif est épuré et en même temps chargé. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de symbiose en fait entre les forces, entre la force d'un motif, la force des matériaux, le noir, l'or, l'argent, le blanc, certaines couleurs. Enfin, je trouve que c'est maîtriser le style parfaitement. Et cette époque incarne, pour moi, une totale harmonie. Et puis pour le coup, je la trouve extrêmement contemporaine et en même temps classique. Et elle correspond parfaitement à mon idée de créer des matériaux et des motifs pérennes qui soient des ambassadeurs du classicisme, en fait, dont on ne se lasse pas. Parce que le classique, c'est important. C'est pas être quelque chose de classique, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. Justement, dans notre monde où on vise la surconsommation, là, les consciences s'éveillent. Justement, être classique, c'est aussi un engagement presque écologique, de se dire que ce qu'on va mettre sur le marché, en fait, ça sera là, et que les gens, quand ils vont racheter une maison, ils n'auront pas envie de tout casser. C'est aussi cette conscience-là dans le décor.
Alors, ce style art déco, vous le transposez sur vos carreaux de ciment, donc c'est des motifs qui sont assez forts, il y a une véritable identité. Pourtant, on est quand même souvent frileux côté motif. Vous, quelles sont vos astuces déco pour qu'on ose un peu plus ?
Déjà, pour les frileux, je dirais qu'il faut rester sur des contrastes très basiques, noir-blanc, noir-beige, noir-beige-gris, des tendances chromatiques très neutres, on va dire. Quand je dis neutre, c'est-à-dire qu'un noir et blanc ou un gris-beige, vous le posez, vous pouvez mettre n'importe quelle peinture au mur, ça ira. Voilà, vous allez pouvoir déployer un style de toute façon. Si vous commencez à mettre de la couleur, eh bien vous allez marquer votre sol. Donc, quand on marque le sol, je dirais qu'il faut être un peu plus sûr de soi et du coup avoir une vision plus globale de sa décoration. Après, le carreau de ciment comme il s'interprète de nos jours beaucoup en salle de bain ou en cuisine, bon, on va typer une pièce, on va pas typer la maison entière. C'est pas comme une entrée. En revanche, typer une salle de bain, moi je trouve ça assez quand même sympa de vivre dans un endroit qui est différent des autres et puis de pas rentrer dans une pièce blanche. Voilà, je trouve ça quand même... Enfin, moi, pour le vivre aussi chez moi tous les jours, bah, je vois les effets. Tous les jours, je rentre dans ma salle de bain et je me dis waouh.
Est-ce que vous mettez des carreaux de ciment au sol et au mur aussi?
Oui, oui.
On peut faire les deux. Le carreau de ciment va aussi sur les murs. Quelle est la différence? Le carreau est différent ou c'est le même?
C'est le même. Après, pour des raisons techniques, on peut choisir un carreau de ciment plus fin au mur. En revanche, jamais au sol poser un carreau de ciment plus fin. Voilà, parce que...
Et on prend le même motif? Vous nous conseillez de faire le même? C'est peut-être un peu lourd, non?
Alors moi, j'ai des petites astuces, voilà. C'est-à-dire que souvent, je propose à mes clients de faire un positif-négatif. Donc le même motif, mais on va coloriser voilà, en négatif sur le sol. Enfin, par exemple, le sol, on va avoir plus de beige que de blanc. Et au mur, on va avoir plus de blanc que de beige. Votre œil va scanner et va dire « Ok, c'est le même motif. » Sauf que vous avez quand même une perspective... Enfin, une 3D qui se crée beaucoup plus facilement que si c'était le même motif partout. Et du coup, ça ne fatigue pas l'œil. L'œil se fixe et on reconnaît l'espace. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est une petite astuce de travailler le positif-négatif. Et puis, dans ma dernière collection où j'ai travaillé tout l'univers du jardin à la française, là, j'ai travaillé sur cette histoire de positif-négatif, bien qu'on puisse le faire hein, et que ça marche très bien. Mais là, c'est sur l'assemblage, donc le calpinage de carreaux entre eux, donc du 10-10, enfin je dis 10 par 10 cm, du 10 par 20, du 20-20, comme en fait ce qui était historiquement fait dans les entrées. Donc là, on va recréer un tapis avec... un premier tapis central, des bordures, des petits cabochons dans les angles et après une deuxième bordure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut, par exemple, traiter comme un tableau mural, comme un tapis de sol. Ou alors, comme les motifs sont créés vraiment comme dans une collection, eh bien, on peut choisir le motif 31 avec le motif 32 dans les mêmes couleurs et ils vont très très bien s'assembler.
Alors, rien à voir, vous proposez aussi des vitraux adhésifs. Donc, je crois que c'est un film qu'on vient coller sur les fenêtres. Donc, soit pour décorer cette fenêtre, justement, soit pour préserver son intimité. Comment vous avez eu cette idée? Parce qu'en plus, c'est assez particulier, l'idée des vitraux. On n'en voit pas beaucoup.
Non, on n'en voit pas beaucoup. Mais justement, c'est pour qu'on en voit plus. je suis fan des vitraux. J'ai toujours adoré ça. Vraiment, une petite passion comme ça que j'ai eue pour les vitraux, parce que je trouve que ça crée une ambiance qui n'a pas sa pareille. Vraiment, quand on rentre dans une maison, c'est vrai qu'il y a aussi toute une connotation religieuse, mais pas que, parce que les vitraux ont aussi beaucoup été utilisés dans les châteaux. Mais vraiment, quand la lumière pénètre cette fenêtre, en fait, et que le dessin se reflète à l'intérieur, soit sur un mur, soit sur le sol, ben, je trouve ça vraiment assez fabuleux. Voilà, que le matériau ait une synergie comme ça avec le soleil, avec la nature, quoi. Je trouve ça fabuleux, donc j'ai toujours aimé ça. Voilà, après, c'était une question, on va dire, de budget personnel. J'avais pas les moyens... de me payer des vitraux tels que je les aurais voulu. Alors quand je parle de moyens, après c'est aussi parfois on peut avoir un petit vitrail et il y a des vitraillistes qui sont accessibles aussi et c'est pas faut pas se dire que c'est totalement inaccessible, mais c'est aussi voilà, on trouve pas un vitrailliste à tous les coins de rue. C'est aussi sur le process d'achat, quand je dis c'est aussi avoir les moyens d'aller rencontrer un vitrailliste, de s'interroger sur le décor. Enfin, c'est tout un process, en fait, hein, de création, de commande, d'installation, etc. Donc, du coup, bon, moi, j'ai un petit défaut, c'est que je suis assez impatiente aussi. Et donc, je trouve toujours les solutions pour aller vite. Et du coup, j'ai lancé cette solution de vitrail que j'ai nommée vitrail numérique. Pourquoi numérique? Parce que c'est de l'impression numérique. Et donc, c'est une solution, comme vous l'avez dit, adhésive. Donc, on reçoit un film adhésif. Et on l'applique sur une fenêtre, sur un miroir, sur des verrières ateliers. Voilà. Donc ça permet d'avoir soit un décor, principalement, par exemple, une verrière atelier. Tout le monde a des verrières ateliers aujourd'hui. Voilà. Il y a 10 ans, c'était waouh, j'ai une verrière atelier. Sauf que maintenant, voilà, il y a des offres standards qui sont sorties sur le marché. On achète ça en kit, donc tout le monde a des verrières ateliers. OK. Et pour autant, on aime tout ça et on a envie d'en avoir, mais en même temps, on n'a pas envie d'avoir celle que tout le monde a. Donc, vient la solution vitrail numérique. Je les ai quittés en rouleau. J'ai regardé ce qui était sur le marché en vitrail numérique, enfin en dimension, en verrière atelier. Donc, j'ai créé des rouleaux que l'on peut redécouper au format de la majorité des verrières ateliers qui existent en kit sur le marché, en standard. Après, pour tout ce qui est fenêtres, c'est plus compliqué puisque les fenêtres, il n'y a rien de standard. Donc là, c'est du dessin sur mesure que je propose.
Ah, vous avez aussi bousculé, entre guillemets, les codes du papier peint. Quand vous avez voulu lancer votre papier peint, vous ne proposez pas des laits de taille standard, mais des laits de 18 cm, c'est ça ? Un peu comme des frises, mais je ne vais pas dire ce mot-là parce que je vois que vous l'utilisez, je ne l'ai jamais lu, donc on ne va pas dire frise. Et aussi des dominos de forme hexagonale pour créer comme un décor sur le mur. Pourquoi vous êtes parti sur ces formats-là et pas sur un papier peint standard ? C'est encore cette histoire de décor ?
Oui, voilà. Donc là, je me suis surtout interrogée sur le format. Avant de s'attacher au décor graphique, je me suis attachée au format. Quel usage on a aujourd'hui du papier peint ? Quel usage on va en faire ? Donc, historiquement, le domino est un des premiers formats du papier peint. Et du coup, je me suis dit, bingo, voilà, c'est patrimonial. On va réinterpréter des décors sur ce format-là. Donc, c'est comme ça qu'est née la collection de dominos et ma collaboration avec Mathias Kiss sur les dominos Grand Antique. Puis après, j'avais envie de continuer et je me suis dit, bon, ok, alors on va continuer sur cette histoire de format, s'interroger sur le format. Et du coup, là, à juste titre, le format frise, je me suis appliquée à m'interroger sur ce format frise. Et du coup, dans la démarche de design, j'ai essayé de me dire, ok, bon, on a ce truc qui est toujours traité à l'horizontale, mais pourquoi finalement on l'a toujours traité à l'horizontale ? Et donc, du coup, je l'ai traité à la verticale, ce qui a donné le mini-lait, donc un format inédit dans l'histoire du papier peint.
Et qui a eu un prix, je crois.
Voilà, qui a eu un prix toujours du label de l'Observeur du Design, grâce au fait que c'était un usage du papier peint qui était en rupture avec nos habitudes. Donc, tout ce qui est en rupture d'usage, qui va créer un nouvel usage, va créer une nouvelle interprétation du papier peint et donc, évidemment, de nouveaux décors.
Alors, je crois que vous êtes aussi lancé dans la peinture. Vous avez votre propre peinture. Vous éditez les couleurs, en fait, de votre palette de carreaux de ciment. Donc, c'est pratique. Et de votre palette de carreaux de ciment et de papier peint pour mieux les associer, j'imagine, pour compléter les collections. Donc, c'est encore autre chose, la peinture. Comment on crée une peinture ?
Créer la peinture en soi, c'est pas très compliqué, puisqu'aujourd'hui, le contre-typage de peinture se fait à tort et à travers, je dirais. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté à créer sa peinture en tant que, je veux dire, designer. Une nuance, toutes les nuances existent. On va pouvoir scanner une nuance et l'avoir en peinture. Voilà, ce qui est compliqué de créer en peinture, c'est comme dans la cosmétique, c'est la formulation de la peinture. Donc ça, très sincèrement, moi, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas de valeur ajoutée par rapport à ça. Voilà, j'ai choisi de travailler avec un atelier qui a une formulation écologique à 98%. Donc en Made in France, voilà, parce que je veux, dans ma démarche, moi aussi, si je sors des produits, de soutenir au maximum ces filières-là. Et donc je l'ai créé aussi pour répondre aux besoins de mes clients, voilà, qui allaient sourcer les peintures assorties à mes carreaux ou à mes papiers peints, en fait. Et c'est vraiment pour moi une offre de service. Je ne lance pas une marque de peinture, vous voyez, c'est vraiment un service. C'est-à-dire, quand on va chez Beauregard, on peut avoir son carreau, sa peinture assortie, la peinture assortie à son papier peint, voilà.
Alors, vous disiez, vous travaillez avec les particuliers, n'importe qui peut acheter vos carreaux, mais vous travaillez aussi beaucoup avec les pros, avec les architectes notamment, en leur proposant de personnaliser vos produits pour s'adapter à leur projet. Vous créez également des collections avec des marques ou des créateurs, vous parliez de Mathias Kiss tout à l'heure, et vous venez notamment de sortir un produit avec Tarket. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus ?
Alors, le produit, c'est tout simplement de la marqueterie de vinyle, qui est une offre qui n'existait pas auparavant sur le marché, puisque c'est grâce à leur technologie de floorcraft, donc de découpe de sol souple et d'assemblage à la main, qui permet voilà, de refaire des sols sur mesure à n'importe quelle échelle à partir d'un motif. Donc Tarket m'a consulté pour créer une offre, une collection qui puisse voilà, correspondre à tous les besoins de l'architecture d'intérieur aujourd'hui. Donc c'est une collection qui est incroyable au niveau de la possibilité de décor, mais aussi grâce au procédé de fabrication Tarket, qui est un industriel français. Tous les matériaux ont une classification industrielle. Donc voilà, là on peut aller sur des marchés hôteliers, des marchés de commerciaux, grandes surfaces, etc. C'est un matériau qui va répondre aux exigences de ces marchés-là.
Alors concrètement, ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce que la marqueterie ? Qu'est-ce que le vinyle ?
Alors le vinyle, donc c'est un procédé de fabrication.
C'est genre du lino, si on veut vulgariser l'info.
Le lino, c'est encore quelque chose de différent. Donc là, c'est vraiment du vinyle. Donc c'est la fabrication de sol souple en rouleau ou en dalle. Et du coup, on a créé cette façon en fait, de traiter le décor comme historiquement en fait, on faisait sur le décor de sol avec la parquetterie.
Bon, vous m'enverrez des photos et on les partagera sur le compte Instagram Décodeur Podcast.
Il faut aller voir parce que
pour voir à quoi ça ressemble.
Exactement, exactement. Il faut voir les photos qui sont très parlantes, qui parlent d'elles-mêmes.
Vous êtes seule ou vous avez une équipe ?
Je travaille beaucoup avec des externes. Évidemment, j'aimerais qu'on soit 10, mais Beauregard, c'est une petite structure. Hein. Donc, on ne peut pas être 10, même s'il y aurait le travail pour être 10. Donc, en fait, je travaille plutôt à la mission, donc sur des contrats soit externes, soit internes. Donc, tout dépend en fait, du besoin actuel de l'entreprise. Et voilà, bon, on va dire que structurellement, je suis seule.
Et votre expertise est quand même assez large parce que vous travaillez aussi bien la création que les prototypes, la production, la commercialisation, la communication. Aujourd'hui, vous répondez à mes questions. Enfin, vous êtes sur tous les fronts. Comment vous gérez tout ça ? Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps ?
Bah, le plus de temps, malheureusement, c'est la gestion de l'entreprise. Hein. Après, en 2016, j'ai eu la chance de gagner un trophée. Le trophée du savoir-faire à la française, décerné par Initiative Île-de-France. Et grâce à ce trophée, j'ai eu un master de gestion et développement d'entreprise qui a été offert par la CCI de Paris. Et du coup, ça m'aide beaucoup aujourd'hui à gagner du temps sur la gestion et le déploiement de la société. Donc du coup, je suis plus performante et ça me permet de m'attacher à autre chose.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Quelle casquette vous plaît le plus entre les aspects techniques et créatifs ?
Franchement, je ne peux pas choisir. C'est comme si vous me disiez...
Les deux vous plaisent. Malgré une formation plus créative, les aspects plus techniques...
J'ai toujours été technique, en fait, parce que même quand j'ai fait de la mode, j'ai fait une double formation, j'ai fait un double cursus marketing de la mode. Donc d'ailleurs, mon premier boulot, c'était chef de produit, c'était pas styliste. Voilà. J'ai toujours travaillé dans la production. Parce que pour moi, un dessin pas produit, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait.
Ça veut dire quoi, un dessin pas produit ?
Un dessin qui ne va pas au bout, qui n'est pas réalisé par un produit, par une réalisation.
Oui, donc vous avez de toute façon cette double casquette.
Voilà, c'est-à-dire que on ne peut pas créer... on peut tout dessiner. La difficulté principale, c'est de le réaliser.
Voilà. Ça veut dire quoi, Beauregard ?
Quand j'ai créé la collection de carreaux de ciment, donc que j'ai décidé de commercialiser, je cherchais le nom d'une rue parisienne. Donc j'avais acheté un livre de Raymond Queneau qui interrogeait l'historique des noms des rues parisiennes. Et donc la rue Beauregard, c'est une rue qui allait vers le mont Orgueil, qui allait sur le haut du mont Orgueil. Donc aujourd'hui, c'est en un seul mot, mais à l'époque, c'était en deux mots. Aujourd'hui, c'est la rue Montorgueil, mais c'était un petit mont. Donc la rue Beauregard montait sur le haut du mont. Et quand on arrivait en haut, on avait un beau regard.
Alors chez vous, est-ce qu'il y a des carreaux de ciment partout ?
Pas partout, mais il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
C'est quel style ? Vous aimez bien quoi ? Ça ressemble à quoi chez vous ?
Bah, c'est assez classique, en fait.
Qu'est-ce que vous appelez classique ? Parce que le art déco doré et très graphique, pour vous, c'est classique, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous appelez classique chez vous ?
Moi, ce que j'appelle classique, c'est que ça va correspondre à des codes classiques, c'est-à-dire des codes historiques. Donc là, j'ai déménagé. Donc maintenant, je suis dans une maison et du coup, j'ai traité dans mes salles de bain le thème du jardin à la française, donc avec des carreaux très graphiques, mais qui s'inspire de l'architecture des jardins à la française d'André Le Nôtre.
Et vous travaillez de chez vous, donc vous avez aménagé vous avez un bureau, vous avez aménagé un coin bureau.
Oui, j'ai réalisé mon rêve d'étudiante d'avoir mon studio chez moi. Donc j'ai créé un studio donc avec un étage dans mon garage et du coup donc où je peux accueillir trois personnes pour travailler. Donc voilà, c'est mon petit antre de travail.
Où est-ce que vous faites votre shopping déco ? Est-ce que vous avez des petites adresses déco à partager ?
Ça c'est dur. C'est dur parce que malheureusement, j'ai plus le temps d'aller dans les lieux physiques. C'est compliqué pour moi. Voilà. Et donc, du coup, je suis devenue accro à l'achat en ligne. Et du coup, vraiment, ça va être, je crois, comme pas mal de gens aujourd'hui. Hein. C'est va être du Pinterest, du... Voilà, je vais chercher des inspirations. Je vais chercher où est-ce qu'on va pouvoir acheter cet objet. Après, j'avoue, dans ma dernière rénovation, il y a des sites qui m'ont bluffé. Alors, ce n'est pas en termes de déco, là, pour le coup, c'est en termes de matériaux, des sites comme Mano Mano qui sont spécialisés dans l'achat de matériaux. Après, il y a des sites comme Archiproduct, voilà, c'est un site italien. Très sincèrement, ça m'a pas mal aidé, voilà, parce que c'est vraiment une marketplace dédiée aux beaux objets, aux objets design. Et puis, malgré tout, il y a Made in Design. Franchement, il y a quand même une belle offre. J'ai testé, j'ai acheté, j'étais livrée, j'étais contente. Et puis, donc je vais vous faire un peu le tour des marketplaces parce que c'est comme ça que j'ai travaillé. Et puis, il y a Celency où vraiment, là, c'est l'éclat parce qu'on va dénicher la pièce rare. Voilà. Et après, je chine pas mal aussi. Je chine beaucoup.
Donc, vous êtes plutôt contemporain ou récup ?
Bah, les deux.
Est-ce que vous avez un mantra dans la vie, une philosophie de vie ? Vous parliez de votre manifeste tout à l'heure.
J'en ai plein, je crois, selon les périodes, en fait.
On en a plein dans la tête et au moment où on nous demande,
j'en ai plein. Oui, bah c'est comme quel est ton film préféré, quel est ton plat préféré. J'en ai plein. En fait, j'aime bien ces petites phrases. Hein. j'en ai plein. Mais je sais pas. Parfois, quand j'ai envie de me plaindre, je me dis ah, j'en ai marre. Je me dis. Oui, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Enfin, non, vraiment, mon mantra, non, ça y est, je l'ai. Moi, c'est Candide de Voltaire. C'est il faut cultiver son jardin. Ça, c'est mon mantra ultime.
Ah, ça veut dire quoi, il faut cultiver son jardin ?
C'est qu'in fine, en fait, la chose qui compte, c'est soi, son propre intérieur, et vraiment de revenir à soi tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est magique, c'est la découverte, c'est aller vers l'autre. C'est, voilà. Mais si on n'arrive pas à revenir à soi, à ce qu'on est vraiment, je crois qu'on peut se perdre, en fait. Donc ça, c'est mon mantra ultime.
Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill. Question à 25 euros, le prix d'une teinture de sourcils pour se faire un beau regard. Est-ce que vous êtes du genre à regarder de haut ?
J'en sais rien. Je crois que certaines personnes, ouais, le pensent parce que j'ai un regard sévère en plus, comme je suis très brune. Bah, moi, je n'ai jamais ce sentiment. Après, voilà, on ne sait jamais ce que les autres projettent ou interprètent de vous.
À qui vous auriez envie de faire un regard de biche ?
Bah, en fait, à plein de gens. Hein. Parce que je pense que je suis assez séductrice, j'aime bien. J'aime bien.
Vous le faites
pas
facilement.
Ouais, je le fais facilement, je pense.
Comment on fait stratégiquement pour regarder plus loin ou regarder au loin ?
Alors ça, c'est un truc que j'ai retenu du permis de conduire.
Oui, ouais. Dans les virages.
Parce qu'il m'a toujours dit, le moniteur me disait, si tu veux aller loin, tu regardes loin. Alors ça, c'est aussi un mantra. Voilà, si je veux aller loin, je regarde loin.
Est-ce que l'amour, c'est se regarder ou c'est regarder dans la même direction ?
Alors pour moi, c'est clairement regarder dans la même direction.
Et est-ce que vous lancez souvent des regards noirs ?
Plein, comme les regards de biche.
Merci beaucoup Aurélia.
Merci Hortense.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.